Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'Opéra National de Lorraine à Nancy pour un masque et la plume consacré à l'actualité littéraire à l'occasion, vous le savez, du 41e livre sur la place, le premier grand salon du livre de la rentrée avec les accros au livre, les fumeurs de papier que sont Olivia de l'Amberterie Duel, Frédéric Becbédé du Figaro Magazine, Jean-Claude Raspienjas de la Croix et Arnaud Vivian le Multicarte Regard Transfuge et bien sûr sa revue Charles pour parler des livres de Lionel Duroy, Emma Becker, Jean-Paul Dubois, Jonathan Coe et Cécile Gilbert. Le livre sur la place qui rassemble près de 150 000 visiteurs et qui est présidé cette année par un ami à vous, Laurent Godet, que j'ai cessé d'inscrire au programme du Masque et la Plume, est clôturé par Fanny Ardant avec la lecture de La Passion suspendue de Marguerite Duras. Presque tous les auteurs de la rentrée que vous aimez ou que vous aimez moins sont là, dont Victoria Mas, qui a reçu ici le prix Stanislas, Olivia, pour le Bal des Folles, et Santiago Amigorena, prix des libraires de Nancy pour son très beau ghetto intérieur. Mais le public a pu aussi écouter ce week-end et rencontrer à Nancy Philippe Lançon, Bret Easton Ellis, Michel Onfray, Enki Bilal ou encore l'anti-Brexiteur William Boyd, tandis qu'Eric Orsenna donnait une lecture musicale de son livre sur Beaumarchais. Et puisque Nancy est la ville, vous le savez, des Goncourt, je vous demande, comme chaque année, qui selon vous mériterait de décrocher le prix cette année parmi les 15 titres sélectionnés par l'Académie, dont toujours le ghetto intérieur de Santiago Amigorena, mais aussi Rouge Impératrice de Léonora Miano, Les Choses Humaines de Karine Thuil, Soif d'Amélie Nothomb, ou encore le roman de Jean-Paul Dubois, dont nous allons parler dans quelques instants. C'est pas un pronostic, c'est plutôt ce que vous pensez voir apparaître le 4 novembre. Place de Rouen, Olivia.
Jean-Paul Dubois.
Toi, tu penses Jean-Paul Dubois?
Pour ce roman-là, pour toute son œuvre, pour Olivier Cohen, pour la maison de l'Olivier.
Pour la France, pour le
et l'Europe,
pour Balkany. Tu me diras, c'est une très bonne lecture en derrière les barreaux.
Hein. C'est bien pour ça que je l'ai dit. C'était très subtil.
Non, parce que je disais, parce que le personnage, évidemment, du roman est en prison. Arnaud.
Il faut absolument choisir dans la liste du Goncourt.
Non, oui, c'est ça un peu l'idée quand même.
Bah, elle est très mauvaise, cette liste. Donc, je pense que c'est Soif d'Amélie Nothomb qui va la voir.
Tu penses que Jésus va l'emporter ?
Absolument. Il y a toujours un moment où il faut que quelqu'un vienne épousseter le Christ en croix. Amélie le fait très bien.
Très bien. Frédéric ?
En tant que juré du prix Renaudot, j'espère que Santiago Amigorena n'aura pas le Goncourt pour qu'on puisse lui décerner le Renaudot.
Mais là, ça c'est des calculs très très stratégiques.
Très très pervers. Hein. Oui. Mais je pense qu'il a de bonnes chances d'avoir le prix Goncourt parce qu'il le mérite.
Et enfin Jean-Claude ?
Moi, je le donnerais à Marin Tins,
qui
pour l'instant n'est pas sur la liste.
Bah ouais,
qui n'est pas sur la liste, mais qui
ils l'ont pas encore
bien...
lu. Il fait 750 pages.
Mais non. Et d'abord, il fait pas 750 pages. Tu l'as déjà dit. Il fait 702 pages. Bon, donc
nuance.
Donc, il n'est pas encore sur la liste. Donc, pour il est possible qu'il y vienne. Il est déjà sur la liste de Médicis.
Il ne lâche rien, Jean-Claude. Hein. Il ne lâche jamais l'affaire.
Depuis le 14 août, hein.
Depuis le 14 août, oui. Donc, Marin Tins, je pense à l'unanimité, il n'y a pas de raison, il y a l'unanimité du masque, naturellement. Donc, sinon, en effet, sans doute Jean-Paul Dubois, mais outsider, qui a ma faveur, Karine Thuil. Qui n'a pas la vôtre, mais qui a la mienne.
Qui est sur la liste, effectivement.
Oui, qui est sur la liste.
Du Goncourt. Voilà. Et donc, on va commencer avec le roman de Jean-Paul Dubois, roman au titre à rallonge, « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon ». On pourrait le dire d'ailleurs des critiques aussi. Et c'est aux éditions de L'Olivier. Ça commence, comme souvent chez l'auteur d'Une vie française, à Montréal, plus précisément à la prison de Bordeaux. Oui, je dis bien la prison de Bordeaux à Montréal, où Paul partage depuis 2 ans une cellule avec Horton, un Hell's Angel ultra-violent qu'on ne souhaite pas pour le coup à Balkany, qui a été incarcéré pour meurtre, fils d'un pasteur danois et de la belle exploitante d'un cinéma RSS de Toulouse. Superintendant de la résidence L'Excelsior, en couple avec la métisse Wynonna, avec qui il s'envoie en l'air au sens propre, c'est-à-dire en avion, Paul a vu arriver un nouveau gérant à L'Excelsior, des conflits ont éclaté et l'inévitable s'est produit. On va pas en dire plus. La raison de son incarcération n'est révélée en effet qu'à la fin. J'aimerais bien que, contrairement à la dernière émission, on ne raconte pas exactement la fin de ce roman-là. Oui, parce que j'ai reçu beaucoup de courriers que je lirai une prochaine fois, parce que dans la dernière émission, Michel Crépu a révélé la fin du roman de Cécile Coulon, ce qui a rendu les auditeurs, à juste titre, fous de rage. Bref, dans ce roman, Dubois rappelle dès le début, là c'est au début, on peut le dire, que l'homme est un ours qui a mal tourné. On pourrait le dire d'ailleurs aussi, ça a des critiques. Et tout au long de son roman, qu'il y a une infinité de façons de gâcher sa vie. Un roman qui, là, comme tous les précédents, ça reste pour moi un mystère, rédigé en un mois. C'est-à-dire qu'en un mois, il faut dire qu'il a un plan, et il y a des préparatifs, hein, mais chacun de ses romans est rédigé exactement en un mois. N'est-ce pas, Olivia?
Oui, et tu sais pourquoi? Parce que le premier roman qu'il a écrit, c'était une commande, donc il devait l'écrire vite, et il voulait battre le record de Boris Vian, qui a écrit « J'irai cracher sur vos tombes » en même pas un mois. Donc il avait perdu son pari contre lui-même, mais il en a gagné une méthode de travail, qui est qu'effectivement, il les écrit en 30 jours, et le 31e jour, il est fait pour resserrer les boulons, réécrire un peu. Extraordinaire, non?
Alors, vous pensez quoi de ce livre « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon »
Je trouve que ça se voit, que c'est écrit en un mois. Parce que dans Le Monde, il expliquait sa méthode de travail. Donc c'est toujours au mois de mars, parce qu'il y a 31 jours, ouais. Effectivement. Ça fait 8 pages par jour. Mmh. Et je trouve que honnêtement, à la lecture, on le sent. On sent qu'il meuble. Par exemple, il donne l'adresse de la prison, le nombre de prisonniers. Et c'est tout le temps comme ça. T'as vraiment l'impression qu'il faut faire 8 pages chaque jour. Donc c'est pas évident. Il met tout ce qui lui passe par la tête et s'éloigne un peu de son histoire et de ses personnages. Et là, honnêtement, moi, on va pas révéler la fin parce que j'ai pas réussi à aller jusqu'à la fin.
Oh non.
Donc il y a pas de danger de mon côté, il y a pas de risque, si vous voulez, que je fasse comme Crépu. J'en veux à Dubois d'avoir dévoilé cette méthode de travail parce que du coup ça a vraiment affecté ma lecture.
Olivia répond.
Oh non, je suis outrée. Vous savez comment d'ailleurs j'ai appris aujourd'hui à Nancy quel était le terme français pour dire spoiler? Il y a un terme homologué qui s'appelle divulgâché.
Oui,
c'est pas mal.
Oui. Je ne sais pas.
C'est du québécois.
Alors voilà, moi je ne divulgâcherai rien.
Tu connais pas le code des sadomaso et tu connais pas non plus le.
Non, je connais rien, ok. Oui. Mais je vous le dis, ce livre est merveilleux. Frédéric, je suis outré par ce que tu dis.
Tu as aimé le Hells Angels qui fait caca tous les jours
à
21h.
J'ai tout aimé, même ça, j'ai tout aimé.
J'étais... Encore une fois, ce qu'on ne souhaite pas à Balkany, ça.
Ni l'épidémie de gastro en prison.
Ça va, ça va, ça va.
C'est vrai, il y a une épidémie de gastro qui est quand même...
Oui, ça passe à l'heure du dîner aussi. Hein.
Oui, je suis désolé.
Je trouve que c'est un livre assez triste, assez mélancolique, sur l'injustice. Mais à la fin, si tu avais été jusqu'au bout, j'en avais une sorte de gratitude pour Jean-Paul Dubois immense, tellement je trouve que c'est beau. Parce que c'est le personnage le plus beau de toute la rentrée littéraire. C'est un homme qui est donc une sorte de super concierge d'un immeuble, mais qui s'occupe surtout des gens avec une sorte de bonté incroyable. Et ça m'a réconciliée avec une certaine idée de la littérature qui fait que oui, on peut raconter un personnage inouï de bonté sans que ça soit un livre mièvre. Tous les personnages sont géniaux, même le camarade de cellule. Il est incroyable, il a des tocs fous, il supporte pas qu'on lui coupe les cheveux par exemple. Donc, il garde ses cheveux dans un petit filet. On voit bien que c'est un taré dingue. Mais je l'aime. J'ai adoré la fiancée. La fiancée, elle est tellement belle. Elle est moitié irlandaise, donc elle a une sorte de côté. Elle sait tout faire dans la vie et en même temps, elle parle avec les morts. On découvre que les Indiens se font enterrer avec les outils. Et j'ai rencontré Jean-Paul Dubois qui m'a dit que son rêve, c'était de se faire enterrer avec sa ponceuse et avec sa perceuse. Non, mais est-ce que c'est pas génial?
Non, mais ce sont pas ses outils de travail, rassure-moi.
Non. Écoutez, et une fois qu'il m'avait dit ça, il m'a dit, mais le problème, Olivia, c'est que je ne sais pas, en enfer ou au paradis, si ce sera du 220 volts ou du 140. Est-ce que c'est pas inouï un homme qui est capable de vous dire ça? Lisez ce livre, je vous promets, après vous écrivez à Frédéric ou vous m'écrivez et on finira
Arnaud,
à la boxe.
Arnaud, qui aura le plus de plaintes.
Arnaud.
Pour commencer, j'ai adoré ce titre, « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon ». Et surtout, ça contrepétrie évidemment, « Tous les hommes n'émondent pas la bite de la même façon ». C'est une contrepétrie que j'adore. Et qui, ben si, c'est une contrepétrie. « Tous les hommes n'émondent pas la bite de la même façon », oui. Qui explique un peu d'ailleurs le livre. Hein.
Mais où est-ce qu'il va? Mais,
non,
mais
non, parce que le livre est une espèce de ce que les Américains appellent une bromance.
Oui, c'est vrai.
Non, mais
oui,
c'est
arrête, tu vas donner envie de le lire, là.
C'est une histoire d'amitié entre hommes, et c'est vraiment ça. Hein. Donc là, on retrouve donc des personnages assez stéréotypés, il faut bien le dire. Hein,
qui sont fréquents dans l'univers de Jean-Paul Dubois.
Les héros, des souris et des hommes, le grand et le petit, Laurel et Hardy, enfin
bah,
voilà.
Bad cop, good cop, c'est pas lui qui a inventé.
Non, mais c'est pas bad cop, good cop, c'est le grand et le petit. C'est vraiment, voilà, c'est une histoire entre deux hommes, avant tout, hein, qui sont donc réunis dans une cellule. Alors c'est très scato tout le temps, hein. Il y a quand même un rapport scatologique assez important.
Ah oui, si.
Dubois, c'est devenu un personnage, une espèce de, c'est le Clint Eastwood des écrivains français un petit peu. Donc effectivement, le gars qui est capable de bricoler, qui veut être enterré avec sa perceuse, comme tu l'as dit, avec sa ponceuse, voilà, c'est le bricoleur. Et du coup, il y a aussi un côté bricolage dans ce roman, c'est-à-dire que effectivement il écrit en 30 jours, et on sent qu'il y a des coups de perceuse un peu partout pour que ça tienne. C'est un peu le type, voilà, qui se retrouve devant une armoire Ikea et qui se dit, ok, là j'ai 30 jours pour la construire. Effectivement, Ikea, il faut à peu près 30 jours pour être sûr d'y arriver à la fin et que ça tienne à peu près debout. Et le lit, voilà, il tient pas du tout debout, à dire vrai.
Non, mais
vous êtes vraiment... est-ce que Jean-Claude,
c'est absolument pas crédible, il faut le dire, l'histoire n'est pas crédible.
Jean-Claude, ce livre est une pure merveille. Le problème n'est pas qu'il soit crédible ou pas crédible, qu'il soit fait par un bricoleur ou pas un bricoleur. Ça ressemble à un rêve. C'est un songe, ce livre. C'est doux comme la neige, c'est mélancolique comme l'été indien. Et d'ailleurs, l'essentiel du récit se passe dans les songes de ce Paul, dont tous ses morts reviennent dans ses songes et lui permettent d'écrire son histoire. Donc on est très loin d'Ikea, excuse-moi. Et c'est vrai que c'est une merveille. C'est-à-dire que tous les personnages sont singuliers, sont attachants, sont magnifiques. Le Hells Angels, il est formidable parce que non seulement il a peur qu'on lui coupe les cheveux, mais surtout il tombe dans les pommes quand on lui coupe les cheveux. Excuse-moi, Frédéric, quel est le romancier qui a imaginé ça? C'est pas un bricoleur d'Ikea qui imagine ça. L'Indienne, sa femme, qui pilote des hydravions.
Mais parce qu'elle sait en plus voler.
C'est une pure merveille, la description qu'il fait des vols qu'elle fait, la façon dont elle atterrit, les loopings qu'elle fait, l'univers carcéral. Et en effet, on le souhaite à Balkany tel que le décrit Dubois. Je veux dire, c'est un très, très beau livre. On a toujours les obsessions de Jean-Paul Dubois, donc celui qui s'appelle Paul, les bagnoles.
Il y a toujours beaucoup de bagnoles et très précisément décrites dans tous ces livres.
C'est ça,
hein.
Alors,
les tondeuses sont bien décrites.
Et là, je ne sais pas. Alors, évidemment, je connaissais forcément la DS19. Mais alors, il y en a une que je connaissais absolument pas. Il précise que c'est une rareté, qui est la NSU RO80. Qui l'occupe beaucoup, puisque c'est la voiture du pasteur. L'antagonisme entre le père et la mère est absolument formidable. C'est-à-dire entre le pasteur luthérien rigide et cette femme.
Qui perd la foi et qui finit dans les casinos, c'est
extraordinaire. Qui fait des prêches enflammées et qui
et
ensuite
qui quitte
va tout
sa femme parce qu'elle diffuse gorge profonde. Enfin,
mais
là.
Non, c'est pas pour
on
ça.
On est dans le protestantisme le plus outré.
Mais c'est aussi un roman d'époque sur la partie française. Et évidemment qu'à cette époque, ça a été quelque chose de considérable. Et qu'ensuite, la description de l'univers nord-américain et du Québec, qui est devenue la toile de fond des romans de Jean-Paul Dubois, est parfaitement bien vue, très jolie. Enfin, c'est un très, très beau roman. Et je suis d'accord avec Olivia, il faudrait lui donner le concours pour l'ensemble de son œuvre. Voilà.
Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. C'est donc Jean-Paul Dubois et c'est aux éditions de L'Olivier. Nous étions nés pour être heureux. Là, il n'y a pas de contrepétrie, Arnaud. Le nouveau roman chez Julliard de Lionel Duroy qui sonne enfin la réconciliation dans cette famille, il faut dire, très chahutée. Je rappelle aux oublieux que depuis 30 ans, c'est-à-dire depuis Prier pour nous, c'était en 1990, jusqu'au monumental Chagrin, c'était en 2010, Lionel Duroy est en guerre avec ses 9 frères et sœurs, aux yeux desquels il est à la fois, je cite, un traître et un assassin, son crime avoir raconté de livre en livre le naufrage, où un père ruiné et une mère folle ont autrefois précipité leur famille nombreuse, sans compter le procès que lui a intenté en 2011 son fils, qu'il avait décrit en drogué dans son livre Colère. Bref, à 70 ans, Lionel Duroy a décidé de fumer le calumet de la paix avec ses frères et sœurs. Il les invite, ainsi que leurs enfants, dans son jardin du Vaucluse. Et voici que dans ce livre où le monologue laisse la place au dialogue, la fratrie demande à Lionel de lui pardonner. Nous sommes tous désireux de réparer ce qui peut l'être, dit l'un. Nous voudrions que tu saches que tu pourras toujours compter sur nous, dit l'autre. Bref, tout est bien qui finit bien. Et pour vous, les critiques, Jean-Claude?
D'abord, c'est pas lui qui souhaite la réconciliation. La réconciliation lui est imposée. C'est-à-dire que sa famille l'appelle en disant, on va passer.
Il la souhaite quand même.
Non, il la reçoit à contre-cœur. C'est-à-dire que, de guerre lasse, c'est le cas de le dire, il accepte qu'ils viennent, mais il préférerait être ailleurs, et au fond, tout le déroulé du roman, et comment il y va à contre-cœur, et d'une certaine façon, cette réconciliation qui est quand même bancale, qui est fragile.
Il prépare du melon, du jambon.
Oui, mais alors précisément, alors, puisque tu parles de ça, d'abord il le fait un peu à minima, il le dit. Précisément, puisque tu insistes là-dessus, je trouve qu'il y a beaucoup trop de descriptions de ce qu'il y a sur la table, quoi. Moi, je veux dire qu'il y va à contre-cœur. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est que, on le lit aussi un peu à contre-cœur. C'est-à-dire que ce qu'on a aimé chez Duroy, c'était précisément la violence des affrontements.
Mais c'est terrible ce que tu es en train de dire. Oui. Ça veut dire qu'en gros, on l'aimait quand c'était la famille je vouais.
Attends, je parle pas de sa vie.
Et qui te déçoit quand c'est famille je vous aime.
Je parle pas de sa vie familiale. Ça le regarde.
Bah, c'est toute son œuvre.
Oui, mais je parle du travail littéraire qu'il en fait. Et le travail littéraire qu'il en fait est beaucoup plus fort, fécond, puissant. Quand il touille la discorde, qui est majeure, puisqu'en fait, il a touché un tabou, c'est est-ce qu'on a le droit d'écrire sur sa famille? Est-ce qu'on a le droit de révéler sa famille? C'est l'aspect passionnant du livre, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est au cœur de qu'est-ce qui a pu les opposer à ce point-là, au point que c'était presque mortel entre eux. C'est-à-dire les enfants ne se voyaient pas. Enfin, ça fait 27 ans que ces gens sont en guerre les uns contre les autres, de la même famille.
Et très violemment.
Et ce qu'on comprend, c'est qu'il a touché un tabou. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit d'écrire sur sa famille? Est-ce qu'on a le droit d'écrire?
Lui, je précise qu'autour de la table du Vaucluse, il n'y a pas Yann Moix. Hein.
Il n'y a pas Yann Moix. Mais ce qu'il explique...
Que les frères et sœurs.
Non, ce qui est intéressant, ce qu'il explique, c'est qu'il n'aurait pas pu vivre s'il n'avait pas écrit ça. Donc, c'est un véritable rempart pour survivre. Ce qui est intéressant, c'est cet affrontement. Mais la façon dont il le fait, il dilue ce qui était son mordant, ce qui était le côté acéré, ce qui nous serrait le cœur dans les précédents livres. Et là, ça se dilue dans des tas de dialogues un petit peu
beaucoup
qui se perdent. C'est une sorte de dimanche à la campagne. Bon, on verra comment ça va se terminer, bien ou mal. Mais on a perdu ce qui nous tenait dans les livres précédents.
Alors, Arnaud, toi, est-ce que tu t'es réconcilié avec Lionel Duroy, avec qui tu étais fâché?
Je parle de ses livres. Il m'a envoyé son livre avec cette dédicace que je vous lis. « Pour toi, cher Arnaud, sachant que quoi que j'écrive, ta haine obstinée m'accompagnera. » Haine obstinée est un peu fort, mais je retrouve bien là un peu l'hystérie qui caractérise l'écriture de Lionel Duroy. Je dirais plutôt mon indifférence continue au travail fécond, comme dirait notre ami. Mais
en un seul mot.
Oui. Bah, peut-être pas. Faut que je réfléchisse à cette question. Donc, on dirait un petit peu, vous savez ce que ça me fait penser, ce livre, ça m'a fait penser à la dernière image des albums d'Astérix. Le banquet final, sauf que là, on a oublié...
Le sanglier.
Non, on a oublié d'attacher et surtout de bâillonner Assurance Tourique, c'est-à-dire Lionel Duroy lui-même. Sinon, ce serait juste parfait. Mais voilà, vous imaginez effectivement un film de Claude Sauté, parce que ça ressemble à ça. On veut l'idée, c'est... Toi, tu as dit un dimanche à la campagne, mais on peut penser à des films de Claude Sauté. C'est un peu l'objectif là que vise Lionel Duroy. On est très content qu'il se soit réconcilié. J'ai au passage découvert qu'il découvrait l'art d'être grand-père. J'en suis... Mais tellement heureux, je suis tellement content que quelqu'un fasse un livre comme ça, important, finalement, fécond sur l'art d'être grand-père, de se réconcilier avec son fils. Mais voilà, effectivement, il y a beaucoup qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit. Et donc, c'est un film de Claude Sauté, encore une fois, mais ce qui serait bien, c'est d'enlever le son, hein, c'est-à-dire, en fait, finalement, d'enlever tout ce qui est l'écriture.
Bon.
Ou la non-écriture.
Je pense que tu as dit l'essentiel, Olivia.
Non, moi je suis le contraire d'Arnaud, j'aime énormément tous les livres de de Lionel Duroy, et notamment Le Chagrin, qui est un très grand livre.
Là, c'est le livre, il faut rappeler, où il rassemblait tout ce qu'il avait déjà écrit dans un énorme volume
avec ses 10 frères et sœurs, et notamment sur sa mère, qui était un personnage absolument terrifiant. Là, c'est un livre sur le pardon. Est-ce qu'on pardonne ou pas ? Qu'est-ce que ça fait de pardonner ? Et moi, il y en a un auquel je ne pardonne, mais alors vraiment pas, c'est l'éditeur de Lionel Duroy, qui d'ailleurs est nommé très souvent dans ses livres, qui s'appelle Curtis dans ses livres.
Dans tous les livres, hein, il est Curtis.
Et là, Curtis, alors je ne sais pas s'il était en vacances, s'il était en prison, mais en tous les cas, il n'a pas
les
fait
prisons
son
pleines.
Travail. C'est-à-dire que c'est un livre, on a l'impression de lire un premier jet, même la fin. Je voulais aller dans une librairie, parce que moi, je pensais que j'avais un faux livre.
J'aurais plutôt pensé à un dernier jet, personnellement, mais bon.
Oh là là.
C'est un livre qui n'est absolument pas édité, qui est presque entièrement constitué de dialogues extrêmement répétitifs. Je suis content d'être là, je suis content de te revoir. Alors que c'est un livre qui pose toutes les questions essentielles de la littérature. À quoi ça sert d'écrire ? Et Lionel Duroy, il explique que s'il n'avait pas écrit, il serait mort. Est-ce que écrire peut tuer ? Parce qu'il pense vraiment qu'il a tué son père.
C'est ce que, en tout cas, ses frères et sœurs l'accusent
absolument.
D'avoir tué le père d'un arrêt cardiaque, enfin d'un
comment
problème cardiaque.
Est-ce qu'on peut survivre à une enfance désastreuse ? Parce que c'est la grande question du roi. C'est-à-dire que lui ne comprend pas comment ses frères et sœurs ont pu survivre à cette enfance qu'il a empêché de vivre. Il y a des phrases très belles où il explique qu'il a été tellement obsédé par cette enfance qu'il a vécu comme un somnambule et qu'en fait il n'a pas vécu. Donc c'est un livre qui aborde des questions fortes, terribles et souvent magnifiques. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez Julliard ?
Frédéric.
Je suis arrivé vierge.
Non.
Car
personne
ne
peut croire ça.
Si. Non. Je n'avais jamais lu, j'avais pas lu les précédents, donc
mais
moi
j'ai
pas.
Quelle chance !
Moi. Je suis arrivé totalement innocent et j'ai ouvert ce livre sans être au courant des 10 frères et sœurs, de la mère folle, du père Margoulin qui était complètement fauché, qui faisait des escroqueries à la petite semaine. Et puis ils habitaient à Neuilly, puis à un moment ils ont dû déménager dans un petit appartement, ça a été un grand traumatisme.
Ils ont terminé à Vaucresson, ce qui pour eux était, c'est vraiment avec leurs particules...
Oui, c'était comme un bidonville quoi.
Mais quel intérêt de lire Duroy si t'as pas lu les précédents?
Alors justement... C'est intéressant
parce que
moi, j'arrive ici avec une grande innocence, une grande pureté de jugement, et je vais vous exposer mon jugement.
Vierge pure, non mais j'hallucine.
C'est un cas d'école.
Et même, c'est la première fois. Donc écoutez bien, parce que c'est la première fois.
Je ne suis pas du tout d'accord, par exemple, quand vous dites qu'ils sont tous réconciliés. Ils n'arrêtent pas de s'engueuler pendant tout le bouquin. Les frères et sœurs ne lui pardonnent pas. Quand même que très difficilement, et après 20 ans d'avoir écrit tous ces
30
livres,
ans.
Oui,
la mère était toujours vivante quand elle a lu tout ça. Ça a été terrible pour elle de lire
le père
tous
aussi
ces horreurs.
Au début.
C'est un livre sur un vrai sujet, les dommages collatéraux de l'autobiographie. Mmh. Et on peut pas faire un sujet plus actuel puisqu'il y a l'affaire Moix. C'est-à-dire que on écrit.
L'affaire Buisson.
Oui.
Il y en a beaucoup.
Est-ce qu'on a tous les droits ? Tous les livres chaque semaine, il y a des livres qui sortent qui font ça, c'est-à-dire qui font du mal autour d'eux. Et là, il a fait lire le manuscrit pour la première fois à toute sa famille. Le manuscrit de ce livre-là, il l'a fait lire avant publication. Les précédents, non. Et peut-être c'est pour ça qu'ils se sont réconciliés. En tout cas, il parle bien de ça. La responsabilité qu'on a quand on écrit des textes personnels, intimes, et qu'on a cette sorte de nécessité de raconter, et en même temps, les nombreux problèmes que ça pose. Moi, j'ai trouvé que pour ça, rien que pour ça, j'avais pas regretté de lire ce livre-là.
Nous étions nés pour être heureux, c'est Lionel Duroy et c'est chez Julliard, La Maison chez Flammarion. Le troisième roman d'Emma Becker, 30 ans et des poussières. Dans ce livre, elle raconte comment et pourquoi pendant 2 ans et demi, elle a travaillé dans 2 bordels berlinois. Rien ne l'y forçait, sinon, dit-elle, la curiosité et la conviction empruntée évidemment au gonzo journalisme. Que pour bien décrire un métier, ben, il faut le vivre de l'intérieur. Après un collège catholique, des études de lettres à la Sorbonne, Emma Becker est donc partie en 2013 pour Berlin. C'était donc, elle avait 23-24 ans, avec en poche Boule de Suif, bien sûr, et Belle de Jour. Et sans doute, mais ça elle ne le dit pas, moi j'en suis à peu près convaincu, les livres de la prostituée suisse Griselidis Réal. Bref, sous le pseudo de Justine, elle est d'abord entrée au manège et puis à la maison. un bordel qui, écrit-elle, avait une âme. Je dis bien une âme, et où elle assure avoir été, je cite toujours, heureuse. Elle y fait le portrait de ses sœurs. Je sens que si je ne parle pas de ces femmes, écrit-elle, personne ne le fera. Personne n'ira voir quelle femme se cache derrière les putes. Il faut qu'on les écoute. Et elle décrit les clients. Alors là, il faut dire que la plupart paraissent très timides, parfois certains assez ridicules. Il faut dire, à côté de ces femmes puissantes, puisqu'elle emploie le mot « femme puissante », j'ai trouvé qu'il n'y avait rien de glauque, de complaisant dans ce récit, et que c'était formidablement écrit et construit. Dites-moi ce que vous en pensez. On va commencer évidemment par Olivia.
Je suis très partagée. Moi, je trouve que le livre n'est pas très bien construit, qu'on commence par un très long tunnel, si je puis dire, pour accéder à la maison, et que après,
il est chronologique. Elle raconte le début, l'autre, si j'ose dire, le mauvais bordel avant de rencontrer la maison.
Je trouve que le livre est bien trop long, pas bien construit. Le sous-sol est au troisième étage, tout ça. Il y a plein de trucs qui vont pas, et que il y a une chose qui m'a énormément gênée, c'est que pour un livre qui devrait être aussi incarné, je trouve que c'est un livre assez désincarné. Parce qu'elle met tellement de distance et de froideur pour raconter ce qu'elle a vécu, que parfois, moi, j'avais envie de lui dire, mais qu'est-ce que c'est d'être une prostituée? Qu'est-ce que c'est?
Elle ne raconte que ça?
Non, je trouve qu'elle le raconte, mais elle le raconte avec beaucoup d'humour. C'est une fille qui a énormément d'humour. Donc elle dit, aucune fellation ne résiste à deux couches de mascara waterproof. Je trouve qu'elle a une manière de tout passer un peu à l'as, qui fait que la question centrale, pour moi, je n'ai pas eu les réponses à ce sujet fascinant. Et quand vous êtes une femme, c'est extrêmement troublant comme livre. Après, je trouve que ce qui est très réussi, et rien que pour ça, ça vaut la peine de lire ce livre, c'est que d'abord, elle écrit très bien, effectivement, et les portraits des filles sont géniaux. Au milieu, je crois que ça commence, page 98, et tout d'un coup, elle raconte les filles. Mais vraiment, elle les épingle comme des papillons.
Enfin, les filles de la maison.
De la deuxième maison.
De la deuxième, enfin.
De la deuxième maison.
Celle qui avait une âme.
Oui, celle qui a une âme et qui est racontée, je trouve, de manière très romantique. Vous avez l'impression qu'elle raconte la maison de Barbie, c'est mauve, c'est rose, il y a des fleurs. Et on se dit, voilà, c'est après la Barbie superstar et Barbie chevelure magique, c'est Barbie prostituée. Il y a quand même une sorte de romantisme qui est difficile à accepter, et encore plus difficile à accepter quand vous êtes une femme. Mais les portraits des filles sont géniaux, parce qu'elles racontent comment la fille, elle a passé la journée avec 6-7 clients, et puis tout d'un coup, elle reçoit des photos de ses enfants qui sont chez ses grands-parents, et elle se met à glousser comme une petite fille. Elle raconte cette espèce de naïveté confondante qui les prend. Elle raconte la fille qui dit « le problème de notre métier, c'est qu'en fait, on ne sait plus si on fait semblant ou si on a envie. Et comment on fait le soir avec notre mari ?» Je trouve qu'il y a des portraits très beaux et il y a des portraits des clients extraordinaires. Alors parfois, moi, j'y crois pas.
Ils sont pas. C'est pas reluisant, cela dit. Hein.
Oui, peut-être c'est pas reluisant.
Non, mais cela dit, elle montre très bien, petite parenthèse, la différence qu'il y a entre c'est la prostitution en Allemagne
et en France. Il y a un client qui est magnifique, c'est celui qui est amoureux de la prostituée. Oui. Et un jour, cette prostituée disparaît. Et comme il connaissait son adresse parce qu'il était médecin et qu'il avait été lui porter un jour des antibiotiques, il va en bas de chez cette fille, et il la voit avec un homme dont elle est amoureuse, et tout d'un coup, il comprend les gestes d'amour qu'elle n'a jamais eu pour lui. Et là, vraiment, vous avez vraiment des frissons. Donc, moitié-moitié.
Arnaud ?
Je suis totalement d'accord avec Olivia. Parce qu'on pourrait s'attendre, en fait, finalement, à quelque chose un petit peu comme étaient les 68 heures quand ils allaient s'établir en usine. On a l'impression qu'elle va s'établir au bordel pour raconter, finalement, la vie des prostituées.
Ce qu'avait fait Linhart.
Oui, voilà. Mais on est assez loin de ça. On est beaucoup plus proche, à mon avis, de la Polonie de Bertrand Bonello. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là d'une esthétique qui l'emporte. Pourquoi ? Parce que Emma Baker sait écrire. On peut même dire que c'est une fille de joie d'écrire. C'est ça qui est le plus important. On est porté quand même, par moment, par son style, parce qu'effectivement, il y a des portraits. L'histoire que tu as racontée avec le médecin, c'est presque une nouvelle de Maupassant, là, pour le coup. C'est-à-dire qu'elle-même raconte que lorsqu'elle quitte le premier bordel, qui est glauque, hein, qui s'appelle le manège, elle est contente parce qu'elle ne veut pas écrire ça. Elle ne veut pas écrire le dixième livre sur le côté sordide de la prostitution. Du coup, nous, en tant que lecteurs, parce qu'il y a quand même un endroit là où nous, le lecteur, on doit se situer et on est un petit peu embarrassé finalement. Embarrassé par effectivement ce romantisme, cet esthétisme dont on a peine à croire que ce soit vraiment la vérité de ces maisons closes allemandes, de ces Eros Center, je crois que ça s'appelle comme ça en Allemagne. Et donc, je sais pas, d'abord le livre effectivement est trop long et on en ressort pas tout à fait convaincu, sauf effectivement d'un vrai talent d'écriture de la part des mamans.
Alors deux choses, d'abord, il faut savoir que les femmes qui entouraient, surtout dans le manège, savaient qu'elle écrivait, c'était pas un secret, elle faisait
même
pas ce...
Même certains clients savaient aussi.
Oui, absolument. Et puis je trouve qu'il y a quand même dans ce livre une humanité, je dis bien une humanité, qu'on retrouve dans les textes de Griselidis Réal. Je ne sais pas si vous les avez lus.
C'est pas du tout le même rapport.
Si,
pas
si.
Du tout le même rapport. Ah bon. Il y a quelque chose de social chez Réal.
Bon, enfin, je me tais parce que c'est...
Et de violence.
Frédéric.
C'est un sujet super dangereux qu'elle a choisi. Et c'est très courageux d'avoir fait ce livre. Parce qu'on réédite ces jours-ci Putain de Nelly Arcan, qui était paru en 2001. Je rappelle qu'elle s'est suicidée en 2009. Et que publier un livre pour raconter ce genre de choses... elle va passer à travers quand même quelque chose de très difficile dans les semaines, dans les mois à venir. Donc elle court un risque immense en faisant ce livre. Et il y a un double danger. Il y en a un que tu as dit, Arnaud, qui est de traiter de manière légère quelque chose qui peut être très douloureux, très violent. Voilà, la prostitution, c'est pas forcément que faire la fête comme dans les nouvelles de Maupassant. Et puis l'autre danger, c'est de victimiser excessivement des femmes qui après tout sont libres et adultes dans ce livre. En tout cas, elles ont l'air toutes d'être parfaitement consentantes et d'avoir choisi ce métier. Et donc ce double danger, je trouve qu'elle évite les deux écueils, ce qui est brillant quand même. Et je trouve que c'est une très très bonne surprise ce livre. C'est un livre délicat, élégant, très humain, comme l'a dit Jérôme. Tous les portraits sont bouleversants, à la fois les filles et les femmes avec leur puissance... qui joue avec le désir des hommes, mais aussi avec le leur. Parce que ce qu'elle dit qui est assez scandaleux, mais c'est que parfois, oui, il y a du désir réel dans ces rencontres-là. Et puis, alors, les portraits des hommes, la solitude, la misère sexuelle. Parce que le fond du problème, c'est la misère sexuelle. C'est ce dont parle Michel Houellebecq dans tous ses livres. Les gens qui vont là sont des gens atrocement seuls, qui n'ont peut-être pas le choix. Et donc, il y a quelque chose d'affreux, de pathétique et d'émouvant, et de très émouvant dans ce roman. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs romans de la rentrée.
Le problème dans ce boulot, écrit-elle, n'est pas ce que les autres en pensent, c'est ce qui se passe en nous. Jean-Claude.
Alors, plusieurs choses par rapport à ce que vous avez dit. D'abord, sur le début du roman, Olivia, le début est absolument magnifique. C'est-à-dire la première phrase concerne son gamin qui a 2-3 ans, et c'est autour d'une couverture qu'elle... Elle remet sur le lit de son enfant et cherchant cette couverture, elle retrouve la trace, c'est le cas de le dire, la trace et l'odeur de ce qu'a été la maison, puisque la maison est fermée et qu'elle a racheté quelque chose.
Donc déjà, sa Madeleine de Proust.
Déjà, ce début avec cet enfant, enfin, moi, je trouve que c'est un début absolument extraordinaire. Ensuite, elle fait effectivement l'éloge des maisons closes en Allemagne en expliquant que c'est strictement contrôlé par le fisc. Là, il y a des pages tout à fait étonnantes.
Oui, elles doivent payer les impôts comme n'importe quel fonctionnaire.
Et elle en parle en termes de service public.
Oui, c'est ça.
Et que par rapport à ce que vous avez pu dire, qui pouvait être ou superficiel ou pas rentrer dans quelque chose de très essentiel, moi, ce que j'ai lu, c'est justement ça. C'est-à-dire que elle rentre vraiment dans la nature obscure et profonde de l'humain. C'est-à-dire, tu parlais d'humanité, mais c'est au-delà de ça. Elle écrit à un moment quand même, il y a une vérité dans la pute, dans sa fonction... dans cette tentative vaine de transformer un être humain en commodité qui contient les paramètres les plus essentiels de cette humanité. Je veux dire, c'est pas rien d'écrire un truc pareil. Moi, ce livre, si vous voulez, il m'a à la fois intrigué par la démarche volontaire de cet auteur, mais aussi dérangé parce que elle décrit ça, mais avec beaucoup de respect. C'est-à-dire, ça m'a dérangé, non pas au sens des pas acceptables. Ça m'a dérangé au sens de c'est éminemment acceptable ce qu'elle dit. Et notamment, elle dit que c'est une fatigue agréable. Il n'y a rien à voir, dit-elle, avec la souffrance qu'on peut imaginer. Elle dit que c'est un choix autant qu'une soumission. Moi, je trouve que c'est un livre très intriguant aussi par ce que tu disais, Jérôme, c'est-à-dire par la dignité et la beauté de ce livre. C'est-à-dire qu'il y a, c'est pas glauque, quoi, c'est pas misérable. La description de ses copines, enfin des filles qui sont là, la sororité en action de ces filles, et je trouvais ça très très beau. Je trouve que c'est ce qu'elle fait, ce qu'elle décrit, c'est un havre de compréhension et de même de bienveillance à l'intérieur. Moi, si vous voulez, moi, elle m'a donné l'impression qu'une fois plongée dans cette réalité qui en effet peut être glauque et sordide, ce que tu disais, elle se protège par l'observation, et sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, mais réellement, c'est l'impression que ça m'a fait, c'est que son préservatif, c'est l'écriture. Qu'elle s'est réellement protégée en écrivant cette réalité-là, et qu'elle nous apporte quelque chose qui manquait.
La maison, c'est chez Flammarion, et c'est donc signé Emma Becker, et les deux premiers livres qu'elle avait écrits sont d'ailleurs très bons. Il fallait un grand roman, 550 pages, sur le Brexit. Le voici, c'est donc Le cœur de l'Angleterre. Du Britannique et natif de Birmingham, Jonathan Coe, traduit chez Gallimard par José E. Camoun. Un roman où les fidèles retrouveront les personnages de Bienvenue au Club et du Cercle Fermé. Coe raconte par le détail comment, de 2010 à 2018, en passant par les émeutes londoniennes de 2011 et les JO de 2012, le Royaume-Uni a basculé dans la folie du Brexit dont on ne connaît toujours pas l'épilogue. La famille Trotter reprend donc du service. Benjamin, 50 ans, enfin publié, s'engage dans une carrière littéraire dans un moulin. Sa sœur Loïs est hantée par ses anciens démons. Le père octogénaire Colin promet de voter en faveur d'une sortie de l'Europe lors du référendum de 2016. Et la nièce Sophie, qui enseigne l'histoire de l'art et qui s'amourage d'un moniteur d'auto-école, se demande si le Brexit est une cause valable de divorce. Il faut ajouter un journaliste politique et le conseiller en com du Premier ministre David Cameron. Quant à la France, je vous dis pas le sort que lui réserve, in fine, plutôt joli sort, que lui réserve Jonathan Coe. Frédéric.
On est bien loin de l'humour intelligent de Testament à l'anglaise.
Tu vas lui reprocher d'être trop sérieux ?
Oui. En tout cas, j'aimais beaucoup Jonathan Coe à l'époque où il avait un peu plus de cynisme et un peu plus d'ironie. C'est un problème d'écrire à chaud sur un sujet d'actualité parce qu'il y a un risque que la réalité soit plus excitante que la fiction. Et là, avec le Brexit, franchement, je suis désolé, mais il suffit d'allumer la BBC tous les jours pour se marrer bien plus qu'en lisant ce livre. Je veux dire que Boris Johnson est infiniment plus marrant que Benjamin, le héros du bouquin.
Mais il a pas voulu faire un livre drôle.
Non, mais ce que je veux dire, que c'est un peu comme si tu, quand tu lis ce livre, c'est comme si tu lisais la saison 1 d'une série qui en est déjà à la saison 3. C'est-à-dire que, je suis désolé, il s'est passé tellement de choses depuis. Et ok, alors il y a une chose qui est bien vue, c'est de dire que les deux camps, le Leave et le Remain, ceux qui voulaient sortir de l'Europe et ceux qui voulaient rester, ces deux camps sont aussi bêtes l'un que l'autre au fond. C'est-à-dire que
comment ça ?
Il montre bien. Ah ben oui, de ce côté-là, on sent qu'il est maintenant il est pour le rester dans l'Europe, Jonathan Coe. Mais il montre bien quand même qu'il y a une élite un peu mondialisée, un peu méprisante avec la plèbe qui considère que l'Europe c'est bien et qui explique mal cette chose-là aux ouvriers et aux gens de le titre du livre en anglais c'est Middle England, les gens de l'Angleterre du milieu ont voté contre l'Europe pour cette raison-là parce qu'il y a un mépris des élites et il montre bien que non c'est pas des ploucs naïfs nécessairement déplorables comme a dit Hillary Clinton sur les électeurs de Trump, c'est pas nécessairement aussi simple que ça. Ça, c'est bien fait. Mais pour le reste, je vous dis, on a l'impression de lire un livre qui est en retard sur la réalité.
Arnaud ?
C'est quand même un peu plus compliqué que ça, le projet de Coe, là, puisque c'est de raconter comment on en est arrivé là en 10 ans. C'est sur 10 ans, finalement, que ça se passe. Et il y a une scène que je trouve absolument magnifique. C'est l'ouverture des Jeux Olympiques en juillet 2012, où, en fait, tous les personnages qui appartiennent à des milieux, à des classes différentes, des classes sociales, qui ont des points de vue différents politiquement sur le monde, se retrouvent devant leur télévision, chacun chez soi, en train de regarder cette ouverture qu'on a tous vue, qui était absolument prodigieuse, avec, effectivement, qui racontait toute l'histoire de l'Angleterre, avec des allusions
et qui était
à Pink Floyd.
Qui était à la gloire de l'Angleterre.
Oui. Il y avait Mr. Bean, il y avait James Bond, il y avait
Paul McCartney,
Mac Oldfield, etc. Et tous les personnages éprouvent la même sensation, celle d'une fierté nationale. Et donc cette scène-là, parce que qu'est-ce qui se passe effectivement ? C'est une montée du nationalisme. Il y a au départ du livre un débat entre un romancier français et un romancier anglais, où l'anglais fait remarquer aux Français que chez eux, en Angleterre, ils n'ont pas le Front National. Aujourd'hui, le Rassemblement National. Donc, il n'y avait pas un parti ouvertement xénophobe. Et donc, et en réalité, le problème du Brexit, c'est ce qu'on voit. Tous les personnages, la plupart des personnages, deviennent de plus en plus racistes, ont un problème avec le flux migratoire et donc désirent un enfermement de l'Angleterre. Avec cette fin, qu'on va donc pas raconter, mais malgré tout, où la France joue un rôle capital et qui est relativement ironique, là, pour le coup, il y a une espèce d'ironie chez Jonathan Coe sur le rapport avec la France. Et juste un chapitre sur Marseille qui est absolument merveilleux, car on voit bien qu'aussi le problème...
Qu'il connaît bien. Hein.
Oui, qu'il connaît bien, et on voit bien que le problème de l'Angleterre, selon Jonathan Coe, c'est aussi un problème de lumière.
Olivia.
Oui, c'est un livre en clair-obscur. C'est un livre qui est certes un peu moins inventif que les premiers livres de Jonathan Coe, que La Maison du Sommeil.
Mais encore une fois, c'est pas son propos non plus.
Mais hein. J'ai trouvé que c'était un livre très, très réussi. C'est pas un livre drôle, c'est un livre totalement crépusculaire, qui est à la fois une déclaration d'amour à une Angleterre qu'il a beaucoup aimée, qui lui colle aux semelles, il le dit, j'aime bien cette expression, et en même temps, sur un pays qui n'est plus. Et le dernier chapitre, qu'on va pas divulgâcher, est juste une splendeur. C'est un couple d'amants à l'heure des regrets en train de se dire adieu. Et le livre, c'est exactement ça, avec des scènes quand même jubilatoires et des trucs drôles. Quand ils sont dans l'abri à jardin avec un auteur qui veut exposer son projet à un éditeur, il y a des choses encore très drôles, mais c'est un livre profondément mélancolique.
Jean-Claude.
C'est surtout un roman utile. C'est-à-dire, tu parlais de saison 3, saison 1, c'est un roman utile. C'est-à-dire que c'est un roman qui va nous servir à comprendre ce que nous ne comprenons plus, le moment où les grands bretons sont devenus totalement fada, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça, c'est un roman utile. C'est aussi un roman utile parce qu'il permet de faire réémerger quelqu'un qui a été vraiment oublié, qui est le responsable de ce désastre, qui est David Cameron. C'est-à-dire, moi, je suis très stupéfait de la façon dont David Cameron passe à l'as dans l'histoire du Brexit et combien sa responsabilité historique a été engagée sur le cynisme. C'est un roman utile.
D'où l'importance du personnage du conseiller en com.
Bien sûr. C'est un roman utile sur le cynisme en politique. C'est-à-dire, ce à quoi on est prêt à faire.
Surtout sur la fin de la politique.
Et surtout, et à ne jamais payer soi-même les conséquences de ces actes qu'on produit pour les autres. Oui. C'est un roman utile sur le sentiment de déclassement d'un pays. C'est un roman utile sur la montée sourde d'un ressentiment populaire. Je suis d'accord avec toi sur le chapitre.
Est-ce que les romans utiles sont de bons romans?
Non, mais attends, j'y viens.
Non, parce
viens,
que j'ai dit que c'est aussi un roman très agréable à lire.
Deux petits points. Je suis d'accord avec Arnaud sur le chapitre sur les Jeux Olympiques. C'est le chapitre pivot. C'est daté. C'est-à-dire, ça dit que c'est la dernière fois que la Grande-Bretagne s'est sentie unie, mais pour moi, c'est un étrange cas d'école, ce roman, et je suis pas d'accord avec toi, Olivia, c'est qu'à partir de la page 402, c'est-à-dire de l'assassinat de la députée Jo Cox, ce n'est plus un roman, c'est un diaporama de clichetons, et toute la fin du livre, est effarant.
À la fin, c'est
effarant.
C'est effarant.
Et la partie.
C'est pas vrai, ils écoutaient pas. Tout ça, c'est parce que quoi? Ils sont en Provence, donc.
C'est clichetons. Marseille, la Provence, tout ça, c'est clichetons. Et donc, les 100 dernières pages, c'est un cas d'école d'un très bon écrivain qui se laisse complètement aller et qui plonge son roman dans quelque chose qui est...
Jonathan Coe, c'est chez Gallimard. On termine très rapidement avec Écrit stupéfiant, la grosse anthologie, près de 1500 pages, chez Lafond, dans la collection Bouquins que consacre Cécile Gilbert aux écrivains qui ont consommé de la drogue, toutes les drogues, de l'opium au cannabis, du LSD à l'héroïne. Cécile Gilbert, qui d'ailleurs avoue dans l'avant-propos avoir goûté à peu près à tous les psychotropes, est donc la première à établir une géographie littéraire des paradis artificiels, une généalogie du shoot, et qui va de Homère à Will Self, de Sartre à Bret Easton Ellis, de Baudelaire à Amélie Nothomb. Celle-là, je me doutais bien qu'elle fumait autre chose que son chapeau. Bref, il y a ici les opiomanes de Baudelaire à Cocteau, les morphinomanes de Daudet à Sagan, les héroïnomanes de Burroughs à Mathieu Lindon, mais aussi l'éther, le hashish, le LSD, qui d'ailleurs où j'ai appris que ça avait valu des soirées assez éclatées à Edgar Morin, le crack, divers champignons, j'ai pas le temps de tous les citer, et dans ce Lagarde et Michard de la Défonce, qu'a appelé d'ailleurs très bien cette semaine Libération, le festival de Cam, on trouve évidemment en bonne place notre ami et camarade Bec Bédé, qui connaît le sujet sur le bout du nez. C'est au chapitre sur la coke, entre Stevenson, Freud,
oui,
McInerney, une drogue, selon Frédéric, je cite, pour nos auditeurs, qui condense notre époque, elle est la métaphore d'un présent perpétuel sans passé ni futur. 1500 pages, évidemment. Je vais demander rapidement de dire comment vous avez fumé ce livre. Fred, Derek.
D'abord, je voudrais te remercier, Jérôme, d'avoir mis au programme une pute et de la drogue. Ça me touche personnellement. On sent une évolution au masque et la plume depuis que je suis revenu et je le prends comme un compliment, un geste amical. Bien, c'est prodigieux, c'est une encyclopédie, un travail titanesque, même si d'autres anthologies existaient déjà, contrairement à ce que dit Cécile Gilbert dans sa préface, il y en avait, mais elle n'était pas aussi exhaustive.
Il y avait des
collections de petits livres sur l'herbe, sur l'héroïne, sur toutes les drogues psychédéliques, ça existait, mais en beaucoup plus petit format. Là, c'est d'une ambition folle. Alors, j'ai relevé deux manques, en fait. D'abord, il n'y a pas, c'est le cas de dire, il n'y a pas la kétamine. Il manque la kétamine, c'est quand même très très intéressant. Ça, c'était le premier point très important. Et puis, elle dit que Marc Lambron est le seul académicien à avoir essayé le LSD. C'est faux, Alain Finkielkraut aussi.
Non.
Si, si. Il me l'a dit dans un entretien. Il a essayé dans les années 70.
J'en ai pas revenu, visiblement.
Je pense que ça... Il a essayé, c'est vrai, il a essayé. Bref, à part ce tout petit bémol, bon. J'adore ce livre et je trouve qu'il a un double plaisir. C'est, on révise les classiques, effectivement, tu l'as dit, Opium de Cocteau, Théophile Gauthier, etc.
Sagan, et puis
Bulgakov. Mais aussi, on découvre des poésies complètement méconnues. Alors, comme par exemple, sur l'opium, de Albert Puyou de Pouvourville, en 1904. Plus douce qu'un velours très doux, ma lampe éclaire le lit rouge où la drogue amuse mon ennui.
Olivia, dont on connaît les addictions.
J'ai vraiment trouvé que c'était passionnant. Pour moi, c'était, vous voyez, une émission à la télévision, c'est Voyage en Terre Inconnue avec Frédéric Lopez. Et on prend quelqu'un, on lui donne une doudoune et on lui dit, tiens, tu vas aller en Laponie. Évidemment, la personne ne connaît rien de la Laponie. Moi, j'ai trouvé que c'était génial parce que c'est comme si on m'avait donné comme ça des plateaux avec toutes les drogues et que enfin j'avais pu essayer. Donc, ça m'a plu. Entre nous, j'adorerais essayer l'opium. L'opium donne terriblement envie d'être avec un peignoir.
Il faut pas. Hein. Je rappelle que c'est illégal. Hein.
Oui, mais...
Parce que Jérôme a un peu oublié de dire
parce
ça.
Que...
Alors, pardon, je fais un peu ton boulot, mais je
parce
rappelle que
ce qui
la
est
préfecture
passionnant...
de police interdit la consommation d'opium.
Mais oui, ce qui est passionnant, c'est qu'elle explique comment chaque consommation de drogue donne lieu à un type de littérature différent. Ça, j'ai trouvé que c'était génial. Après, à la fin du livre... où on est un peu quand même chaos. C'est un livre profondément triste. C'est-à-dire qu'on voit que ce sont des gens extrêmement mélancoliques et dépressifs qui prennent de la drogue pour essayer d'aller mieux et qui, après, vont encore plus mal. Donc, finalement...
Tu as bien compris.
Je vais continuer à prendre du champagne.
Arnaud.
Ben moi, j'étais un peu comme Charlie dans la chocolaterie. C'est-à-dire que... Il y a une espèce d'abondance, de friandise qui donne envie de tout essayer. Essayer un certain nombre de choses, mais pas tout. Et donc,
enfin, je vous rappelle qu'on est effectivement écouté à une heure de grande écoute, qu'on a beaucoup d'auditeurs. Il faut faire attention
à ce
qu'on dit quand même.
De toute façon. Non, et c'est surtout le rapport entre la drogue et la littérature, qui est le sujet d'abord de cette anthologie, avec cette phrase magnifique de Henri Michaud qui demande à Jean Paulhan quelle drogue prendre pour rendre l'écriture facile.
Il en a fait un livre d'ailleurs.
Voilà, oui, et j'ai appris par ailleurs que ce brave Jean Paulhan avait fait des épisodes de mescaline avec Henri Michaud et sa maîtresse.
Oui, ensemble dans un même appartement, il a failli perdre la vie d'ailleurs.
Oui, c'est quand même absolument incroyable. Et donc il y a ce rapport là, c'est que ils ne prennent des drogues, ces écrivains et ces écrivaines, car il y a aussi des femmes, que pour finalement chercher à écrire plus facilement.
Jean-Claude, un mot, pardon, mais...
Ben, moi, ce soir, c'est ma soirée connaissance du monde. Deux séances.
T'es vierge,
deux séances le même soir.
Déjà, le bordel.
Le bordel et la drogue. Là, je veux dire, merci Jérôme. C'est, voilà.
Ah ben, quand on va à Nancy, on va à Nancy.
Oui.
Thank you. C'est la phrase de la soirée. Hein.
Donc, deuxième série. Non, je dois dire que c'est une somme ahurissante. C'est un travail extraordinaire. C'est vraiment l'histoire parallèle du versant sombre de la littérature. C'est un travail de bénédictine. C'est vraiment l'encyclopédie de la défonce littéraire. Non, franchement, c'est tout à fait extraordinaire comme livre. Et je regrette pas d'être venu aux deux séances.
Et Christ stupéfiant, c'est Cécile Guilbert et c'est chez Robert Laffont dans la collection Bouquins. Et je vous demande rapidement de nous donner un petit conseil de fin d'émission. On commence avec Olivia.
J'ai oublié. Ce sont les mémoires de Bulogier écrites avec Anne Gatkin au seuil, et c'est absolument merveilleux. C'est vraiment le portrait d'une époque de l'avant-garde, puisque ses amis sont Jean Eustache, Bukowski, Barbet Schroeder, son mari, avec des anecdotes, mais d'une drôlerie. Elle a voulu écrire un livre léger, même s'il y a beaucoup, beaucoup de choses très graves et très douloureuses. Notamment, il y a un coup de téléphone que j'adore. Elle vient de passer la nuit avec Barbet Schroeder et elle a mal compris son nom. Et elle appelle son amie Bernadette Laffont, qui est sa meilleure amie, et elle lui dit « Il m'est arrivé un truc épouvantable, j'ai couché avec Servan Schreiber. » Et alors, Bernadette Laffont est très étonnée, elle lui dit « Ah bon ? Ah, c'est très bizarre quand même de ta part. Oh, c'est pas grave, on a le droit de coucher avec tout le monde. Ce livre est une merveille. Après, il y a une scène où elle se souvient de la main de Patrice Chéreau sur son épaule lorsqu'elle joue le conte d'hiver après la mort de sa fille. C'est magnifique.
Bulogier au seuil, Arnaud.
Alors, un premier roman, Rhapsodie des oubliés de Sophia Aouine à la Martinière. Alors, c'est extrêmement bizarre, c'est tout à fait le genre de livre que je déteste d'habitude. C'est-à-dire que c'est la goutte d'or racontée par un enfant de 13 ans d'origine libanaise, le petit Abad. On pense évidemment à la vie devant soi, mais c'est tout à fait volontaire de la part de Sophia Aouine. Et normalement, la goutte d'or vue par un regard d'enfant, vraiment, c'est pas mon truc. Et ça marche, parce qu'il y a, je sais pas, il y a quelqu'un qui écrit, et à la fin, le petit Abad, il rentre dans les gosses, le petit douane, etc. Il fait partie de la bande de ces grands gosses de l'histoire des arts. Et
Gavroche.
On ne pense plus qu'à lui, oui, à Gavroche. Et c'est une description par ailleurs de la goutte d'or aujourd'hui qui risque de faire mal quelques mois avant les municipales.
Mon conseil rapidement, La part du fils de Jean-Luc Coatalem, c'est chez Stock, l'écrivain voyageur qui part sur les traces de son grand-père résistant depuis la presqu'île de Crozon jusqu'au camp de Bergen-Belsen où il est mort en 44. Un destin que le petit-fils romance, je trouve, dans une très belle langue et surtout beaucoup d'émotions. Frédéric.
Un premier roman intitulé La chaleur de Victor Gestin chez Flammarion. C'est une tragédie balnéaire dans un camping des Landes. C'est un moyen de retourner en vacances, au soleil, en adolescence aussi. On pense un peu à Bonjour Tristesse, un peu à L'étranger de Camus. Il y a un mort sur une plage, il fait chaud et tout le monde a envie de baiser et puis personne n'y arrive. Et il y a cette phrase, toutes les fêtes étaient finies.
Le conseil de Jean-Claude.
Premier roman aussi, Abel Quentin, Sœur, aux éditions de l'Observatoire, Sœur au singulier. C'est le destin parallèle de deux adolescentes d'aujourd'hui qui vont préparer un attentat, un passage à l'acte, avec l'une qui commandite l'autre, qui est d'une bonne famille mais qui est un petit peu mal à l'aise dans la vie. Et comment, se convertissant, elle est prête à tout. C'est un roman précis et sec sur la préparation d'un attentat, mais surtout sur les motivations et sur ce truc qui traîne en ce moment dans l'air du temps et qui conduit à ce type d'acte. C'est un roman passionnant, précis et sec sur ce mal du siècle. Abel Quentin, Sœur, édition de l'Observatoire.
Tous ces conseils, vous les retrouvez bien sûr sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Olivia de Lamberterie, Frédéric Becbédé, Jean-Claude Raspienjas et Arnaud Vivian pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin. Avec la collaboration de Lysiane Selam et ce soir à l'Opéra National de Lorraine, à la technique, et je les remercie, il y avait Stéphane Foulon, Olivier Leroux, Nicolas Depagraf et Tanguy Lecorneau. Chargé de production, Guillaume Rialan. La réalisation était, comme chaque semaine, signée Xavier Pestugia. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, c'est jeudi 26 septembre, c'est au Théâtre de l'Alliance Française, c'est au 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée au théâtre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parle de films. Merci Nancy et à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.